bonjour à tous. Aujourd'hui, en effet, un voyage au pays de Tintin. Mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes des petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. Charles de Gaulle à André Malraux. D'histoire. Le 10 janvier 1929, les lecteurs du supplément jeunesse du journal belge Le 20e siècle découvraient un drôle de personnage. Il s'appelait Tintin, il était journaliste et partait faire un reportage en Russie. En dessinant la première page de cette première aventure de Tintin, Georges Rémy, dit Hergé, ignorait lui-même qu'il venait d'inventer le personnage le plus célèbre de l'histoire de la bande dessinée. Et qu'après les aventures de Tintin au pays des soviets, il y en aurait 22 autres vendus aujourd'hui à 200 millions d'exemplaires dans le monde entier et qui ont fait voyager plusieurs générations de lecteurs sur tous les continents du monde. En Afrique, en Amérique, au pays des gangsters et des Incas, ou en Arabie, au pays de l'or noir, au Tibet, sur les pas de l'abominable homme des neiges, sous la mer, à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, et même sur la Lune, où 15 ans avant Neil Armstrong, Tintin fut le premier à mettre le pied en 1954.
Allô, ici la Terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez.
Ici, la fusée lunaire, c'est le professeur Tournesol qui vous parle.
Parfait. Tintin se prépare, il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire.
Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas. Prêt, mon brave Milou? Oh, quel spectacle hallucinant! Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0! Wow! Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la Lune!
C'est absolument incroyable! Vous vous rendez compte, nous sommes sur la Lune!
Regarde-moi ça, Dupont, quel paysage fantastique! Et dire que nous foulons ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied!
Et oui, comme le disaient les Dupont, jamais encore la main de l'homme n'avait mis le pied sur la Lune. Avant, on a marché sur la Lune, une des 23 aventures de Tintin, beaucoup moins nombreuses que tous les livres consacrés à Tintin ou à Hergé, et parmi eux celui de mon invité d'aujourd'hui, Les Métamorphoses de Tintin, qui vient d'être réédité chez Flammarion. Jean-Marie Apostolides, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait de Tintin, avec Mickey peut-être, encore aujourd'hui, le personnage peut-être le plus célèbre de la BD? Pourquoi qu'est-ce qu'il avait de plus qu'Astérix, que Spirou, que Lucky Luke par exemple?
Celui qui avait peut-être quelque chose de plus, d'abord, c'est Hergé. Peut-être a-t-il plus de talent que certains de ses rivaux. Mmh. Mais son héros cumule sur sa personne aussi un certain nombre de qualités qui en font un modèle pour les jeunes et peut-être les moins jeunes. Il est jeune déjà, il a entre 14 et 17 ans, il a du courage, il est un garçon honnête, il est à la fois conformiste et non conformiste, c'est-à-dire il n'hésite pas de temps en temps à s'opposer aux valeurs de son époque. Et puis surtout peut-être, à mon avis, c'est une hypothèse, il n'a pas d'intériorité, il n'est pas encombré de vie psychologique intérieure, peut-être parce qu'il n'a pas de parents, donc il n'a pas de compte à régler avec son passé, avec son enfance, et il est libre de voyager par le monde en raison de cette liberté intérieure.
Et puis il reste un enfant, ça fait 77 ans puisque le premier aventure, c'est en 1929, ça fait 77 ans pile, c'est-à-dire l'âge de ses plus vieux lecteurs, que Tintin est né, le bon contre les méchants, le petit contre les grands, hein, disait le général de Gaulle. C'est ça aussi peut-être qui a plu.
Il y a cet aspect-là aussi, et puis il a cette chance unique de mûrir sans vieillir, et c'est la seule personne qui a cette chance miraculeuse.
Et dessiné donc pour la première fois par Hergé en 1929, on l'écoute en parler au micro de Jacques Chancel en 1970.
Je n'avais jamais vraiment dessiné ce genre de choses, surtout dans un quotidien. Et même si le supplément était hebdomadaire, et j'avais jamais imaginé que ce personnage pourrait durer longtemps. Il fallait donc qu'on puisse le reconnaître d'un moment à l'autre, d'un carré à l'autre. Et comme j'étais très paresseux, je savais à peine dessiner, j'ai fait un cercle à peine, je pouvais à peine faire un cercle, un petit cercle avec deux yeux et un nez et une bouche, et un petit accent qui est la houppe de Tintin.
Et pourquoi Tintin?
Ça, je n'en sais rien du tout. Je sais pas.
Tintin est venu comme ça.
Je sais pas, non. Ça, c'est le petit ordinateur qui a lancé ça. Je l'ai pris. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai plus aucun souvenir.
C'est marrant. À l'entendre, en 70, Hergé n'avait aucune idée, n'imaginait pas une seconde que son personnage deviendrait célèbre. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il dessinait. Il y avait déjà une préhistoire de Tintin. Il y avait un héros de Hergé qui s'appelait Totor. C'est peut-être lui qui est à l'origine de Tintin.
Tout à fait. Oui, pendant qu'il était encore jeune, avant d'entrer au journal de l'abbé Norbert Wallet, il a fait une bande dessinée qui s'appelle Totor. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille prendre totalement au sérieux la pseudo-innocence d'Hergé et le fait qu'il a dessiné comme par hasard un personnage ou un héros qui s'est trouvé avoir tant de succès. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
C'est de la coquetterie, vous croyez?
Oui, de la modestie d'un côté, mais de l'autre côté, un refus de dévoiler ses cartes et peut-être un désir de ne pas trop inciter à rechercher par derrière les motivations qui l'ont poussé à sortir ce personnage.
Ah, parmi les motivations, il y en a qui sont frappantes, c'est le côté très politique, c'est un message politique en tout cas. Les premiers albums de Tintin, c'est évident. Le premier, d'ailleurs il n'a jamais voulu qu'il soit réédité de son vivant, c'est Tintin au pays des soviets. C'est un livre, c'est une BD très anticommuniste, Jean-Marie Apostolides.
Il faut la replacer dans son époque. L'Union soviétique est mal connue en 1930, les gens sont inquiets et... Hergé, qui ne connaît pas l'URSS, pas plus que la plupart des Européens d'ailleurs, utilise un livre extrêmement anticommuniste et l'adapte directement, sans recul, aux aventures, à la première aventure de son héros. D'où l'aspect caricatural qu'il a aujourd'hui, mais si on se replace dans l'époque, ça n'avait rien d'excessif, je pense.
Bon, c'était un peu ce qui se passait vraiment d'ailleurs en Russie, sauf qu'il n'a pas voulu qu'il soit réédité. Alors, anticommuniste, et puis alors, deuxième aventure, Tintin au Congo, et là, on découvre un Hergé vraiment colonialiste.
Oui, encore une fois, mais dans les valeurs de l'époque, le mot n'était pas aussi chargé qu'il l'est aujourd'hui, où aujourd'hui il est connoté presque entièrement négativement. En 1930, il l'était pas forcément. Donc de ce côté-là, Tintin, bien sûr, adopte et adhère à toutes les valeurs du colonialisme, ne prend pas de recul, mais d'un autre côté, il ne sort pas de cette aventure les mains en sang, il ne maltraite pas les indigènes.
Non, c'est du paternalisme.
Exactement, c'est plutôt du paternalisme.
Il faut rappeler que le Congo, c'était la grande colonie de son pays, de la Belgique. Alors on peut se dire, voilà un homme qui trouverait toutes les vertus à l'Amérique. Pas du tout. Tintin en Amérique, voilà une nouvelle charge, cette fois-ci contre le capitalisme, Jean-Marie Apostolides.
Oui, il se situe exactement entre les deux. D'un côté, la haine du capitalisme libéral tel qu'il est représenté aux États-Unis et que Hergé associe au gangstérisme. Mais une fois de plus, il n'est pas le seul à le faire à l'époque. Et de l'autre côté, la haine du communisme. L'Europe essaye à cette époque-là de trouver un chemin moyen entre le capitalisme américain et le modèle nouveau soviétique.
Alors pour certains, ce chemin moyen, c'était le fascisme, hein, c'était, il faut bien le dire. Et là aussi, il faut reconnaître que Hergé a été raciste, antisémite. Il le reconnaissait d'ailleurs lui-même dans la suite de cet entretien avec Jacques Chancel en 1970.
Alors je suis frappé. Oui. Par une tendance politique que vous aviez, qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin chez les soviets, c'était l'anticommunisme primaire. Oui. Tintin au Congo, alors là, c'était le petit noir.
Et
vous preniez pour un frais blanc.
Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que je ne me singularisais pas. Enfin, je crois que tout le monde à l'époque était d'abord anticommuniste, ou plutôt plus exactement, dans le cas du XXe siècle, anti-bolchevique, l'homme au couteau entre les dents.
C'était en 1929.
C'était en 1929, n'oublions pas. Et quant au Congo, mais il allait de soi, ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous en voyons d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc j'étais colonialiste comme tout le monde était colonialiste. Il y avait une loterie coloniale en Belgique, il y avait votre exposition coloniale à Paris. Tout ça allait de soi, semble-t-il.
En toute honnêteté.
En toute honnêteté. Les événements m'ont fait changer. Enfin, puis j'ai évolué, comme tout le monde évolue.
Alors, il a évolué, il a changé. Il répond pas à la question de racisme, mais le racisme, moi, il est assez visible dans certains de ses, l'antisémitisme, notamment dans certains de ses livres. Je pense, par exemple, à L'étoile mystérieuse, où le méchant, eh bien, c'est un banquier juif qui s'appelle Blumenstein. Il y a aussi l'horrible Rastapopoulos, hein, une espèce de contraction du mot Rastaquer, mais c'était un nom grec, mais c'est vraiment le stéréotype du juif tel qu'on le caricaturait dans les années 30.
En tant qu'homme de droite, on peut penser effectivement que Hergé était totalement antisémite et il ne s'est dégagé de cette idéologie qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est vrai, de ce côté-là, c'est un des points noirs de sa biographie. Plusieurs commentateurs ont soulevé ce problème. Il adhérait probablement à l'antisémitisme sans réserve.
Au rexisme, hein, qui était le grand mouvement fasciste belge, dont le chef d'ailleurs, qui s'appelait Léon de Grelle, se vantait d'avoir été le modèle, d'avoir inspiré le modèle de Tintin à Hergé.
De Grelle a peut-être un petit peu exagéré, mais il est vrai qu'il a été proche pendant un temps de Hergé, et Hergé a dessiné des couvertures pour certains de ses livres et adhérait à certaines de ses idées. Mais jusqu'à plus ample information, il n'a jamais adhéré réellement au mouvement rexiste lui-même. Il se contentait de partager les idées de Grelle.
Puis le modèle de Hergé, c'était surtout, vous le rappelez, Jean-Marie Apostolides, c'était surtout Albert Long, le reporter, surtout quand Hergé envoie son héros en Chine, où Tintin va rencontrer Chang, qui a vraiment existé et que Hergé a rencontré avant d'écrire le Lotus Bleu. On écoute le véritable Chang en 1984.
Hergé veut envoyer son Tintin faire un voyage en Chine. Alors il me demandait quelle histoire je peux faire. Je ne connais rien sur la Chine. Alors je lui dis, je vais vous parler ce qui se passe en Chine. C'est ainsi. Lotus Bleu est après mon idée. Tant c'est dérivé de mon portrait.
Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier?
Je m'appelle Tintin.
Et moi, c'est Chang.
Il représente un peu le désir que j'avais d'être un héros. Au fond, j'ai rêvé pour lui les aventures que j'aurais aimé vivre moi-même, bien entendu, comme toujours tout ce qu'on fait. Hein.
Tintin, c'est vous. Toujours.
Mais oui, bien sûr.
Monsieur Wang,
Tintin, enfin. Oh, mon garçon, je désespérais de vous revoir. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la guerre a éclaté.
Comment ça, la guerre?
Vous n'êtes pas au courant? Un groupe de terroristes a fait sauter la voie de chemin de fer menant à Shanghai. Les Japonais ont utilisé ce prétexte pour envoyer des troupes en Chine.
Et c'est un extrait du Lotus Bleu, écrit, je crois, en 1936, et au moment de l'occupation japonaise, enfin, de la Mandchourie par les Japonais. Tintin, c'est vraiment un peu, en quelque sorte, du journalisme en BD, hein, Jean-Marie Apostolides. Il suit les événements.
Pour les premiers albums, définitivement, y compris dans L'oreille cassée, Tintin est véritablement un reporter, suit les événements et les retrace en bande dessinée. Mais petit à petit, il va prendre du recul et à la place d'être un reporter, il va être un aventurier. Et à ce moment-là, il va entrer dans une seconde phase de son existence, c'est-à-dire la phase des aventures, et il va se décoller de la réalité immédiate par désir de ne pas être totalement piégé dans les raies de l'histoire.
Vous savez, dans le Lotus Bleu, il prend parti, ce qui était d'ailleurs assez rare à l'époque, pour la Chine contre le Japon, c'est-à-dire en fait contre un État totalitaire, de même que, on est toujours avant la guerre, ce qui montre bien quand même que son évolution, elle a commencé avant la guerre. Il y a ce fameux sceptre d'Ottokar dans lequel les méchants, ce sont les bordures, c'est-à-dire en fait la bordurie, c'est l'Allemagne nazie.
Oui, tout à fait. Mais il faut quand même nuancer. Dans le Lotus Bleu, il prend position pour la Chine de Chiang Kai-shek, quand même. Et à l'époque, il aurait peut-être pu avoir une vision plus nuancée. Pour le sceptre d'Ottokar, il a de la Sildavie, une vision qui est aussi traditionnelle, c'est-à-dire celle d'un petit pays autour d'un roi paternaliste et qui n'est pas une démocratie. Donc il ne faut pas non plus exagérer les appétences démocratiques d'Hergé. Ça ne viendra qu'après la guerre.
Oui, mais on pourrait croire que c'est un peu l'Autriche envahie par la bordurie Allemagne nazie, non?
Je sais pas. Ça l'est d'ailleurs.
Ça, c'est encore très actuel.
On peut
très
lire
actuel.
Comme ça.
Alors ça, on est à la veille de la guerre, de l'occupation de la Belgique par l'Allemagne nazie. Et là, Il continue d'écrire quand même. Hein. Quel était son comportement pendant l'occupation, Jean-Marie Apostolides?
C'est le point le plus noir de la biographie d'Hergé, et il faut pas se le dissimuler. Apparemment, il ne fait rien de sordide, mais dans la réalité, il travaille au journal Le Soir, qui est devenu un journal collaborateur dans lequel l'équipe des anciens journalistes a été renvoyée, et il adhère plus ou moins clairement à l'idéologie de la collaboration, et il prétend ne pas s'apercevoir de l'implication politique de son engagement, mais en réalité ça a été le point noir de sa vie et ça a pesé sur tout le reste de son existence.
Et alors ça aussi transformé un peu, c'est une des métamorphoses que vous rappelez du personnage de Tintin, Jean-Marie Apostolides, ça a transformé aussi les aventures de Tintin, parce que pour la première fois, pendant les 12 premières années de Tintin, les 8 premières aventures de Tintin, Tintin est seul. Yamilou, hein, c'est son seul copain. Et puis voilà que avec un livre qui est le Crabe aux pinces d'or, on voit apparaître le premier d'une quantité, d'un certain nombre d'autres héros de Tintin, presque aussi populaires que lui, et parmi eux, le capitaine Haddock.
Le personnage préféré ?
Le capitaine Haddock.
Ah, moi j'aime beaucoup le capitaine Haddock, je trouvais très amusant par ses paroles, et puis les deux Dupont, et puis Tintin, et puis son petit Milou, enfin tous.
Tintin et Milou, le capitaine Haddock, et 1 000 000 000 de savoirs.
Tonnerre de Brest, j'ai été roulé, et par mon propre équipage en plus. Je suis l'âne de la marine. 1 000 000 000 de mille sabords. Oh, ma dernière bouteille.
Vengeance !
Capitaine !
En place ! Salut, pied ! Engagé ! Tchouk, nous va !
Capitaine, arrêtez ! Vous allez vous faire tuer !
Moulageon, fricot de plasme, ça m'apprend ! Ectoplasme, marabout, nous arrivons !
Ça alors, Milou ? Il les a mis en fuite.
Le capitaine Haddock, le capitaine aux pinces d'or, vous l'appelez comme ça, Jean-Marie Apostolides, parce qu'il l'a rencontré dans le Crabe aux pinces d'or. Là, on est à la 9e aventure. À quoi il sert, le capitaine Haddock? Parce qu'on va le retrouver désormais dans toutes les aventures de Tintin.
S'il y a une vraie surprise dans les œuvres d'Hergé, c'est Haddock, c'est-à-dire Hergé ne pensait pas que Haddock durerait aussi longtemps, il le prévoyait simplement pour un épisode. Au départ, dans le Crabe aux pinces d'or, c'est une loque humaine, un alcoolique complètement névrosé,
raté de la marine.
Exactement, qui a tout échoué dans sa vie et qui s'est fait prendre son navire. Et puis, petit à petit, par la rédemption à travers laquelle il passe grâce à Tintin, il devient un personnage qui est beaucoup plus près de Panurge dans Rabelais et qui devient le pivot de la nouvelle direction que Hergé a prise pour les aventures. C'est-à-dire, c'est vraiment Haddock qui mène l'aventure avec son verbe, avec sa soif de savoir, mais aussi d'amour.
Et de whisky.
Et puis aussi avec son désir de racheter ce passé lamentable.
Et puis alors, ces injures, hein, parce que alors là, vraiment, on n'a jamais vu autant d'injures dans des livres pour enfants. On en a entendu quelques-unes, Va-nu-pied, Tchouk-tchouk nougat, marin d'eau douce, mille sabords, mais il y avait aussi moule à gaufre, crétin des Alpes, bois sans soif, et alors moins connu aussi, j'en ai relevé un certain nombre, je crois qu'il y a environ 150, parmi lesquels, amiral de bateau lavoir, extrait de cornichon, analphabète diplômé, coloquinte à la graisse d'anthracite, Vercingétorix de Calamar. C'est quand même rare. Comment est-ce que, je sais pas, pour des livres d'enfants, surtout à cette époque-là, nous sommes pendant l'occupation de la Belgique, c'est rare de voir ça parmi les personnages de bande dessinée.
C'est un problème très complexe. Il y a déjà un dictionnaire des injures de Tintin qui a été fait par Albert Algou, et il y a des hypothèses. Il y a des gens qui pensent qu'il a été très influencé par Céline et qu'il a repris un certain nombre de vocabulaire ou d'insultes qui appartenait au pamphlet antisémite de Céline. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une hypothèse vraie, mais en tout cas, c'est intéressant.
En tout cas, il donne du relief à un personnage qui était un peu trop lisse. Hein. C'est peut-être ça qui sert aussi. Alors, il y en a d'autres, des personnages. Il y en a un certain nombre. Tintin n'est plus tout seul désormais. Il a une véritable famille. Alors, vous citez dans cette famille, vous citez tous ceux que l'on connaît. Il y en a un sur lequel vous insistez, Jean-Marie Apostolides, qui est un personnage secondaire, parce que les plus connus, c'est évidemment Tournesol, c'est évidemment la Castafiore, ce sont les deux Dupont, les deux policiers, il y en a des quantités d'autres, il y a le général Alcazar, et alors il y en a un dont j'avais pas remarqué l'importance, mais qui à vos yeux en a, c'est Monsieur Lampion.
Lampion inaugure la troisième partie des aventures de Tintin, c'est-à-dire quand on passe de l'aventure peut-être à la critique du monde extérieur. Lampion, c'est l'incarnation de tout ce que Hergé déteste et n'aime pas. C'est le Belge moyen ou le Français moyen, picassiette, conformiste, doué d'une famille, alors que Tintin n'a pas de famille. Une fois encore, Albert Algou a essayé dans un texte de sauver Lampion et d'en faire un personnage positif. Mais dans l'hypothèse d'Hergé, Lampion, c'est la modernité dans ce qu'elle a de plus laid et de plus horrible et de plus médiocre.
Et les autres, je sais pas, les Dupont par exemple, ça aussi, c'est pas des personnages, c'est pas une police exemplaire.
Ils appartiennent quand même...
Sympathique, mais enfin bon...
Ils appartiennent quand même à la famille de Tintin et ils sont une incarnation du père d'Hergé et du frère jumeau du père d'Hergé.
Alors il y en a d'autres, hein, bien entendu, dont un certain professeur un peu sourd que Tintin rencontre aussi dans une de ses aventures.
Que puis-je faire pour vous?
Monsieur Tintin, permettez, je suis enchanté de vous connaître, je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer.
Inutile, monsieur, n'insistez pas, je n'ai pas le temps, vous entendez? Pas le temps!
Eh ben, c'est entendu, allons-y tout de suite, alors.
Tout cela est étonnant.
Ah non, Tournesol, Trifon Tournesol.
Tonnerre de Brest.
Ce cher capitaine Kapok. Oh, oh, que je suis ravie de vous revoir. Irma!
Voici la trousse, Madame Castafiore.
Mon cher ami Tintin, permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en souvenir de notre première rencontre.
Merci beaucoup, madame. Oh, le Faust de Gounod.
Eh oui, le fameux air des bijoux.
Ah, la Castafiore. Je remarque quand même que c'est la seule femme, ou en tout cas la seule héroïne de Tintin, et on peut dire qu'elle soit gâtée, elle est vraiment ridiculisée. Est-ce que Hergé ou Tintin était misogyne, Jean-Marie Apostolides?
À mon avis, pas du tout. Il y a quelques figures secondaires de femmes qui ne sont pas du tout caricaturées, entre autres Madame Clermont dans Les Sept Boules de Cristal. Et la Castafiore a un côté caricatural, mais d'un autre côté, regardez, dès le début, c'est-à-dire dès le sceptre d'Autocar, dans l'affaire Tournesol, dans Tintin et les Picaros, à chaque fois, elle sauve Tintin et sa famille. Donc c'est elle le personnage sauveur. Elle a, c'est vrai, un aspect caricatural, mais elle est aussi un personnage très très positif. Il ne faut pas la confondre avec Peggy, la femme d'Alcazar.
Elle marque aussi peut-être une métamorphose, un tournant, une métamorphose comme vous le dites, Jean-Marie Apostolides, parce que à partir notamment des bijoux de la Castafiore, Tintin, ça change vraiment de ton. D'abord, ça devient beaucoup plus humoristique, ce qui peut paraître surprenant pour un personnage, Hergé, qui était lui très dépressif. Mais c'est plus du tout le sérieux ou le qu'il y avait avant, même s'il y avait un peu d'humour. Là, vraiment, ce n'est presque plus que de la caricature.
Je propose une interprétation. Les aventures de Tintin ont consisté à se créer une famille qu'il n'avait pas à l'origine. Avec la Castafiore, la famille est finie, et à partir de ce moment-là, il se tourne vers le monde extérieur. Tintin et les siens s'enferment dans le château de Moulinsart, et le monde extérieur est un monde un petit peu caricatural, grotesque, une société du spectacle, comme Guy Debord va la définir, c'est-à-dire un monde qui est hostile aux valeurs d'essence aristocratique qui sont celles de Tintin et de son clan.
Oui, mais alors, après les bijoux de la Castafiore, il y aura deux autres livres. Il y avait les Picaros, là, ils sortent, hein, on voit à l'extérieur. Il y avait Vol 714, je crois, pour Sydney. Des livres qui ont eu moins de succès. hein, comme si brusquement bah, c'est, la veine s'était un peu tarie.
Au niveau esthétique, Hergé a tout un studio et il est obligé de leur donner du travail, c'est-à-dire que l'esthétique de la bande dessinée Tintin devient différente et les fonds sont surchargés, donc peut-être un peu moins intéressant esthétiquement, et d'autre part Hergé a du mal à trouver de nouvelles aventures. Il prend des années avant de finir un scénario et il a tendance à repuiser dans les histoires du passé pour les réinjecter dans les dernières aventures. Elles ont beaucoup de qualités, du moins pour moi, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être moins extraordinaires que celles de la grande époque.
Alors la grande époque va se terminer bien entendu en 1983, année de la mort d'Hergé. Alors contrairement à beaucoup d'auteurs, de héros, de bandes dessinées, qui sont tout à fait favorables à ce que leur héros continue de vivre avec d'autres dessinateurs, d'autres metteurs en scène, Hergé a refusé. Hein. La dernière aventure de Tintin, ce sera Tintin et les Picaros, et puis après plus rien.
Il s'est tellement impliqué dans les aventures de Tintin, au niveau individuel, que il ne pensait pas que quelqu'un pourrait les reprendre, du moins dans son optique à lui. Il a fermé son œuvre. Alors Tintin reste un héros mythique, pour combien de temps ? Personne ne peut le prédire, mais d'un autre côté, ça reste une œuvre uniquement associée à Hergé, et pour le moment, elle n'a pas de développement autonome en dehors de son créateur originel, et elle n'en aura peut-être jamais. Donc à ce moment-là, ça risque de faire comme dans le cas de Jules Verne, une œuvre fascinante, très forte, qui sera fermée sur elle-même et qui risque à ce moment-là d'intéresser un tout petit peu moins les générations futures.
Mais pour l'instant, c'est quand même pas le cas, les générations actuelles. Moi, j'ai un fils qui est né bien après la mort d'Hergé et après le dernier Tintin. Ils sont encore passionnés, ça les intéresse peut-être plus que les mangas, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore un enfant peut être passionné par la lecture de Tintin, pas au pays des Soviets puisqu'il n'a jamais été réédité, mais je sais pas, le Lotus Bleu par exemple?
Eh bien, peut-être simplement le fait que Tintin continue d'être un héros. On est une société qui est séparée entre deux valeurs opposées, l'héroïsme d'un côté et la victimisation de l'autre. Et Tintin est franchement du côté de l'héroïsme, et on n'a pas tant que ça des personnages positifs, héroïques, qui s'adressent aux jeunes d'aujourd'hui et qui peuvent gouverner le monde à un moment où la place des jeunes, elle est pas toujours très ouverte, très facile. Il n'est pas toujours très facile pour les jeunes de faire leur place dans le monde.
Merci Jean-Marie Apostolides. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Métamorphoses de Tintin, réédité en poche aux éditions Champflammarion, et qui se trouve dans un coffret intitulé La petite bibliothèque du Tintinologue, qui contient deux autres titres, Hergé écrivain de Jean Bettens et Hergé fils de Tintin de Benoît Peters. À lire également Génération Hergé d'Olivier Delcroix, édition des Équateurs, ainsi que La vie quotidienne à Moulinsart de Thomas Sertillange, Hergé d'Alain Bonfard et Jean-Luc Marion, et enfin Tintin et le secret de la littérature de Tom McCarthy, tous trois parus chez Hachette Littérature. Vous avez pu entendre des extraits des dessins animés suivants, Le crabe au pain d'or, On a marché sur la lune, Les bijoux de la Castafiore, Le trésor de Rackham le Rouge et Le Lotus Bleu, tous disponibles en DVD dans un magnifique coffret, l'intégrale Tintin, 21 en fait des 23 titres de Tintin, en dessin animé édité par Citel Vidéo. Et maintenant la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre Éphéméris, la chronique au jour le jour de 1000 ans d'histoire. Répondez à la question suivante. Nous sommes le 29 novembre, donc le 29 novembre 1997 fut le jour d'une élection restée célèbre, si on peut dire. Laquelle ? Réponse 1, François Hollande, élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Réponse 2, Pierre-Jean Rémy, élu à l'Académie Française. Réponse 3, Jean-Marie Rouard, élu à l'Académie Française. Donc François Hollande, Pierre-Jean Rémy ou Jean-Marie Rouard. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute. Puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.